Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on plonge dans l'histoire injustement méconnue d'une pionnière de l'informatique française. Son nom, Alice Rocock, une femme née en 1929 qui a traversé le 20e siècle avec panache et qui a participé aux grandes innovations de l'époque, de la miniaturisation des ordinateurs aux capacités de mémoire jusqu'au première réflexion autour de la démocratisation des programmes d'intelligence artificielle. Alice Rocock raconte une histoire française de l'informatique, ses succès, ses espoirs et ses désillusions. Nous verrons en quoi son parcours éclaire les enjeux du 21e siècle, notamment sur la question de notre souveraineté technologique et notre dépendance aux entreprises américaines, et si tout s'était joué déjà dans les années 70. Nous essaierons également de mieux comprendre pourquoi cette femme talentueuse et visionnaire a été oubliée, pourquoi sa page Wikipédia a fait l'objet d'une absence de consensus et comment faire en sorte que l'écosystème du numérique soit plus égalitaire. Enfin, à la star d'une énigme policière, nous tenterons de savoir qui a voulu effacer Alice Rocock. Et pour mener l'enquête, une autrice qui vient de lui consacrer sa première biographie. Marion Carré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc l'enquêtrice, mais aussi la présidente et cofondatrice de la start-up Ask Mona, qui cherche à rendre la culture plus accessible grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes d'ailleurs membre de la commission IA, nommée par le ministère de la Culture. Et nous vous recevons ce soir pour votre livre qui a voulu effacer Alice Rocock, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage aussi accessible que complet sur l'histoire de l'informatique française, vous tentez de retracer le parcours de cette femme méconnue. On sent entre les lignes votre admiration et aussi tout ce qui vous lie l'une à l'autre, d'un siècle à l'autre. Une biographie originale, nécessaire et passionnante. Merci d'être avec nous. Au programme également, une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous parlera avec passion des grandes figures féminines de la science-fiction. Quant à Juliette Devaux, elle nous livrera son journal, celui d'un monde meilleur. Le Meilleur des Mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde également sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
Alice Rocock a été ingénieure. Elle a notamment participé à la conception du CAP 500, le tout premier ordinateur personnel.
Alors l'idée du CAP 500, c'était qu'on voulait faire un petit calculateur. Une machine, ça doit être, elle doit tenir dans un bureau, ce sera le bureau de la secrétaire, on la portera, on mettra une prise de courant et ça marchera.
Focus sur les métiers de la tech où les femmes sont toujours sous-représentées. Elles ne sont que 30% à occuper un poste dans le numérique. Une sous-représentation due, selon le HCE, à un manque de modèles féminins auxquels s'identifier, mais aussi à une peur du sexisme qui sévit dans ce secteur.
Bah, c'est vrai que prendre le sujet de la parité par l'emploi, c'est déjà un peu trop tard. Donc la question à se poser, c'est pourquoi pas former nos enfants très tôt au fait de s'initier à la tech, de s'initier aux métiers qui ne sont pas forcément genrés.
Pour faire face aux défis immenses qui sont devant nous, nous ne pouvons pas nous priver de la moitié de l'humanité. Nous avons besoin de femmes dans la tech, nous avons besoin de femmes entrepreneuses.
Et au début de ce montage, on a pu entendre la voix d'Alice Rocock. Elle était interrogée ici même à France Culture en 1998 dans l'émission Le Temps des Sciences. Donc France Culture déjà qui s'est intéressée à Alice Rocock comme vous. Mais comment vous en êtes venue justement à Alice Rocock, Marion Carré ?
Il y a une question qui m'obsédait en quelque sorte et qui a précédé ma découverte d'Alice Rocock, qui était le fait de savoir pourquoi est-ce que je ne connaissais aucune femme pionnière de l'informatique française. Je connaissais certaines figures de pionnières comme Ada Lovelace, qui est cette comtesse qui est notamment à l'origine des algorithmes. J'avais aussi entendu parler d'Heidi Lamarr, qui est cette actrice à qui on doit notamment l'invention du Wi-Fi, mais personne en France. Et donc je me demandais, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas eu? Ou est-ce que parce qu'on ne les connaît pas? Et du coup, c'est au fur et à mesure de cette question qui revenait que j'ai commencé à creuser et à découvrir Alice Rocock au hasard d'une page Wikipédia avant de m'apercevoir que cette page Wikipédia avait failli disparaître.
Voilà, ça fait justement l'objet de votre premier chapitre, cette page Wikipédia, cette guerre justement pour que les pages puissent exister lorsqu'elles sont consacrées à des grandes figures féminines. Est-ce que quand vous êtes avec votre entourage, par exemple, quand vous dites voilà, je travaille en ce moment sur Alice Rocock pour écrire sa première biographie, que vous dites les gens, ils vous disent mais on la connaît pas ou...
Alice qui ? Alice quoi ? Pardon.
Parle de qui ?
Effectivement, et j'ai pu constater que ce soit en dehors, mais même dans ce milieu de l'informatique et des personnes que je côtoie au quotidien, vraiment, personne ne la connaissait. Ce qui était à mon sens un immense gâchis, parce qu'on va sûrement en parler plus en détail, mais on a ce manque de rôle modèle, de figure féminine pour donner envie aux femmes et aux jeunes femmes de se lancer dans l'informatique. Et c'est vrai que là, il y avait cette personne qui a eu un parcours incroyable que tout le monde ignore. Donc j'ai vraiment eu la sensation d'un immense gâchis. Et c'est ce qui m'a motivée à me lancer dans cette aventure.
Et la motivation, c'est aussi le goût pour la transmission, puisque c'est votre métier en tant qu'entrepreneuse au sein de la start-up Ask Mona, où vous transmettez la culture, des œuvres culturelles. Là aussi, il s'agit de transmettre une histoire. Ça s'inscrit finalement dans la même démarche.
Exactement. C'est vrai que le fil rouge de tout ce que je fais, c'est cet enjeu de transmission, de passer les connaissances. Et pour Alice Rocock, c'était la même envie. C'était de faire redécouvrir cette pionnière et en fait, à travers sa vie, de s'en servir comme d'un fil rouge pour interroger cette question de la place des femmes dans la tech, entre ce qui a bougé, mais aussi les permanences depuis son époque et plus largement cette histoire de l'informatique française, parce que il y a vraiment un enjeu de, notamment de génération, où c'est vrai que on a l'impression aujourd'hui que toutes les innovations nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses en France. Donc il y avait cette envie de redonner confiance plus largement sur la possibilité d'une informatique française et de plus de femmes dans l'IA, avec notamment ce parcours inspirant d'Alice Rocock.
Alors pour la situer, elle est née en 1929, décédée en 2021, donc c'est quand même une longue vie très riche avec de multiples aventures qui embrassent finalement les aventures du secteur informatique français. Alors vous l'avez titré qui a voulu effacer Alice Rocock, c'est un titre accrocheur sous une forme d'énigme, et dont les premiers suspects, celles et ceux qui ont voulu effacer Alice Rocock, d'ailleurs plutôt ceux, vous allez du côté des contributeurs de chez Wikipédia, parce qu'évidemment on va tout de suite sur une page Wikipédia et vous voyez que c'était pas si évident de voir une page Wikipédia au nom d'Alice Rocock. Elle a fait l'objet de nombreux débats. Comment on peut expliquer cela lorsqu'on connaît la mécanique de Wikipédia ?
Alors effectivement, le fonctionnement de Wikipédia, c'est que ça laisse une grande liberté aux contributeurs, mais qu'a posteriori, il y a un contrôle pour s'assurer que les informations qui sont partagées sont sourcées, sont suffisamment sourcées et méritent leur place dans Wikipédia. Et c'était en fait tout l'enjeu de la discussion autour d'Alice Rocock. Est-ce qu'Alice Rocock méritait d'avoir une page Wikipédia ? Est-ce qu'elle avait fait suffisamment de choses et d'accomplissements pour ça ? Et donc c'est tout le débat qui a émergé. Mais je trouvais ça très intéressant de l'attaquer déjà sous l'angle de cette page Wikipédia, parce que ça commence à montrer la dimension en fait systémique de l'effacement et de l'invisibilisation des femmes dans la technologie, puisque dès cette page Wikipédia, on se rend compte des problématiques qui existent, c'est-à-dire qu'on a trop peu de sources. Il y a notamment un manque de sources secondaires qui est mis en avant et qui vient du fait qu'on a peu de femmes qui sont médiatisées.
Voilà, la source secondaire, pour bien comprendre, la source première, on va dire que c'est le témoignage direct, donc pourquoi pas une déclaration d'Alice Rocock. Et les sources secondaires, ce sont telles qui font en sorte de bâtir la notoriété finalement d'une personnalité, donc c'est notamment des articles scientifiques ou des articles de presse.
Exactement. Et donc il y en a très peu. Il y a effectivement quelques jours une étude de l'ARCOM qui est sortie et qui montre qu'on a vraiment cette problématique de visibilité des femmes dans les médias. C'est seulement 34% du temps de parole à l'antenne, en télé et en radio en 2023. Et il y a une autre étude à l'échelle internationale qui montre qu'il y a seulement 2% des personnes invitées en qualité d'ingénieur ou scientifique qui sont des femmes. Donc effectivement, elles sont moins relayées dans les médias et donc finalement, il y a moins de sources. Et qui dit moins de sources dit plus de chances d'effacement. Et c'est pour ça qu'on a seulement 19% des biographies sur Wikipédia qui portent sur des femmes et qui dit du coup peu de femmes visibles. Peu de rôle modèle ensuite pour donner envie aux plus jeunes générations de se lancer. Donc ça montre vraiment cet enjeu de boucle et cette problématique systémique autour du sujet de la place des femmes dans la tech.
Et on peut citer d'ailleurs le collectif 100 pages, hein, 100 pages SANS, qui œuvre pour une réhabilitation justement des femmes chez Wikipédia, pour qu'elles aient un nombre de pages suffisant qu'elles méritent. Ils font ça depuis plusieurs années. Il faut aussi dire que cette absence de traces race est liée à l'époque concernée et au secteur. C'est-à-dire que dans les années 60, l'informatique n'a pas la place qu'il occupe aujourd'hui. Donc on manque de traces, on manque aussi de considération par rapport à ce milieu, par rapport à cet écosystème.
Effectivement, c'est un écosystème qui, au début d'Alice Recoq, en fait, elle commence dans l'informatique au moment où elle travaille sur des ordinateurs, au moment où le mot n'est pas encore inventé. Donc elle est vraiment au tout début et c'est aussi ce qui explique qu'à cette période-là, il y avait aussi plus de place pour les femmes. D'ailleurs, les femmes ont précédé les ordinateurs puisqu'il y avait ces personnes qui étaient appelées des computeurs à l'époque. Au départ, le terme désignait des femmes qui faisaient des calculs mathématiques, donc avec la force de leur cerveau, et on les appelait des computeurs. Donc c'est vrai qu'au tout début, il y avait beaucoup de femmes parce que c'était un secteur
qui n'était pas prioritaire. En
exactement,
fait.
Complètement sous les radars. Et on en reparlera sûrement plus en détail, mais plus la lumière est mise sur ce secteur, moins on a de femmes en proportion.
Et puis aussi un phénomène que l'on comprend d'autocensure, parce que Alice Recoq va parfois s'effacer elle-même dans ses travaux en laissant juste des signatures masculines, par exemple, ou elle va refuser aussi des sollicitations qu'on peut lui faire, notamment de publications scientifiques. Donc on voit que c'est un phénomène pervers où l'ingénieur, la femme elle-même, va pas se mettre sur le devant de la scène.
Effectivement, ce qui est assez prégnant dans le parcours et le témoignage que représente Alice Recoq, c'est que elle a eu le sentiment de devoir faire deux fois plus qu'un homme, de devoir énormément faire ses preuves et du coup de travailler beaucoup plus. Et c'est vrai que sur ce qu'elle a priorisé, ce qui comptait pour elle, c'était ses accomplissements, son travail, les ordinateurs qu'elle produisait et pas forcément le rayonnement de ses travaux. Et donc ça explique que voilà, il y a des choses qu'elle a pas eu le temps de faire, qu'elle a refusé parce que ce qui comptait pour elle, c'était les ordinateurs, les projets sur lesquels elle travaillait plutôt que d'en faire la publicité.
Et vous dites également une phrase qui m'a marqué, la page a été finalement conservée au motif d'une absence de consensus. Vous écrivez, ce verdict est un stigmate qui entache la postérité de l'informaticienne, comme un acquittement pour insuffisance de preuves laisse planer le doute sur la culpabilité de l'accusé.
C'est effectivement ce verdict, je trouve, qui laisse planer le doute sur le fait de se dire est-ce que Alice Recoq avait sa place ou non. Donc c'est très intéressant en fait, et c'est ce que j'explore dans le livre, qui est de voir toutes les raisons qu'on soulève pour dire qu'elle a pas sa place. Elle a fait que son travail, ça mérite pas du tout. On diminue ensuite tout ce qu'elle a fait, on diminue les personnes qui en parlent, et en fait c'est assez symptomatique de cette stigmatisation des apports des femmes et des femmes scientifiques. Au progrès scientifique, et donc c'est pour ça que je trouvais qu'on avait vraiment ici un cas d'école du phénomène.
Et puis tout un paradoxe, hein, pour une femme qui a tant œuvré pour le numérique, d'aller voir disparaître sur Wikipédia, qui est quand même le quatrième site le plus fréquenté en France. Le numérique, vous en êtes servi aussi pour retrouver les traces d'Alice Recoq, et puis vous avez vu aussi les limites de cette investigation dans le cyberespace, et donc vous avez adopté la bonne vieille méthode de l'entretien, de l'interview, et de partir à la recherche de ses descendants.
Effectivement, le web était la première porte d'entrée pour fouiller toutes les traces qui pouvaient rester d'Alice Recoq. Mais donc, assez vite, j'en ai fait le tour, puisque en dehors de quelques nécrologies, mentions à droite à gauche, j'avais rien de conséquent à mettre sous la main. Alors, c'est resté un outil tout au long de l'enquête, puisque ça m'a permis de retrouver des anciens camarades grâce à une photo de classe publiée sur le site de l'école et que j'analyse en détail dans les pages pour voir ce qu'elle raconte de la place des femmes dans les écoles d'ingénieurs, pour entrer aussi en contact avec sa famille. Avec ses enfants, avec ses petits-enfants, c'est le web par des sites web un peu détournés que j'ai réussi à faire parler pour trouver ces personnes et entrer en contact avec elles. Mais ensuite, c'est vrai que cette enquête, elle est vraiment faite du récit, des témoignages de personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont pu me parler d'elles, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel. J'ai aussi accès à ces mémoires que m'ont transmis ses descendants. Donc c'était un projet inachevé, mais qui m'a déjà appris beaucoup de choses sur ce qu'elle a fait et sa perception des choses. Et bien sûr, des archives.
Alors là, c'est intéressant justement ces mémoires, puisqu'elle le dit, elle commence à raconter son histoire. Alors peut-être qu'elle le fait aussi parce que personne ne la racontait à la hauteur de ce qu'elle attendait, sans doute. Elle le raconte pour elle-même, dans l'espoir que peut-être un jour, ça puisse intéresser quelqu'un, telle une bouteille jetée à la mer, et ce quelqu'un, c'est vous.
Tout à fait. C'est vrai, quand j'ai reçu ce document, j'ai vu que sur les premières pages, j'avais marqué « pour mes descendants et toute personne qui aura envie de mieux me connaître ». Et moi, j'avais un peu cette question de me dire « mais je vais découvrir les mémoires d'une personne que je ne connais absolument pas ». Et à ce moment-là, je me suis dit « d'accord, je me sens aussi à ma place dans cette démarche avec effectivement cette bouteille lancée dans le futur qui m'a permis du coup de mieux comprendre sa vision des choses, d'où elle partait et comment elle se positionnait.
Et la difficulté aussi de sa vie, puisqu'elle arbitre en permanence entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Il faut quand même se rappeler de l'époque, c'était pas bien vu que les femmes travaillent, c'était une conquête d'indépendance. Elle a eu 2 enfants, puis 3 enfants, donc il a fallu aussi qu'elle arrive à marier, si je puis dire, à la fois ses obligations personnelles et ses ambitions professionnelles qui étaient très fortes.
Effectivement, ce qu'elle raconte, c'est que la plupart de ses quelques camarades femmes de promotion ne travaillent pas, qu'elle fait ce choix et elle est soutenue par son mari de travailler. Alors, à une époque où les femmes travaillent de plus en plus, même si dans des milieux bourgeois, ça reste encore une exception. Donc, elle a fait ce choix-là de travailler, mais du coup, ensuite, elle doit vraiment assumer sur tous les plans, c'est-à-dire que ça crée un stigmate de plus pour elle d'être cette femme qui est très investie dans sa carrière, qui progresse, mais qui a aussi des enfants et qui du coup ne renonce pas là où on s'attendrait à ce qu'elle renonce, c'est-à-dire qu'elle fait un métier d'homme, mais elle le fait pas comme un homme, elle assume le fait d'être une femme, d'être une mère, d'avoir toute cette vie de famille, et donc ça la pénalise ensuite d'autant plus.
Voilà, par rapport justement à ces différentes sollicitations qu'elle a pu notamment refuser. On lit aussi dans votre ouvrage que et dans cette enquête qu'il y a un lien de filiation même qui se crée avec Alice Recoq, puisque vous rencontrez ses petits-enfants qui sont de la même génération que vous. Vous avez des origines communes aussi qui nous renvoient vers l'Algérie française.
Oui, alors c'est vrai qu'Alice Recoq, ça m'a tout de suite marqué de voir cette femme qui travaille dans l'IA à cette période-là. Ses combats, ils me parlent encore beaucoup aussi parce que les femmes dans la tech, on reste toujours minoritaires, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc il y a un certain nombre de choses que Alice Recoq a dû surmonter tout au long de son parcours qui, moi, me parlaient beaucoup. Et donc c'est pour ça que je trouvais que encore aujourd'hui, c'était une figure qui avait beaucoup de choses à dire et qui pouvait avoir un écho très important auprès de générations récentes. Et c'est vrai que cet aspect où Alice Recoq à l'âge de mes grands-parents, donc il y a un peu cet aspect génération de grands-parents, mais qui est en fait toujours très actuel, et on pourrait se dire que sur la question de la place des femmes dans l'informatique, c'est un peu vieux, c'est un peu ancien, c'est ce qui se passait à l'époque des grands-parents, mais en fait, il y a un certain nombre de problématiques qui sont toujours très actuelles aujourd'hui.
Que vous ressentez-vous donc en tant qu'entrepreneuse, je le rappelle, avec cette start-up AskMona, vous sentez encore cette misogynie ambiante dans le secteur ?
Il y a toujours très peu de femmes dans l'intelligence artificielle. Elles sont toujours minoritaires. C'est-à-dire qu'on a 80% d'hommes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc il y a toujours une minorité de femmes. Et en fait, on a tort de penser que c'est le temps qui améliore les choses. Souvent, j'entends « Ah oui, mais quand même, depuis l'époque d'Alice Recoq, ça doit aller beaucoup mieux. » Et oui, mais le temps fait son œuvre. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec son parcours, c'est que ça nous inscrit dans le temps long et ça permet de voir qu'en fait, il n'y a pas que des progressions, il y a aussi des régressions et qu'il ne faut absolument pas prendre pour acquis le fait que le temps fera son œuvre sur cette question-là.
Alors quand on lit justement le parcours d'Alice Recoq, comme beaucoup de parcours, évidemment, il y a le rôle des rencontres qui sont déterminantes, qui changent une trajectoire. Elle va rencontrer, mais par là aussi, la force de son travail, puisqu'il va tout de suite la repérer, c'est François-Henri Raymond. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors moi j'aime beaucoup cette histoire de François-Henri Raymond qui est effectivement un entrepreneur du XXe siècle, mais où je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec l'approche start-up aujourd'hui. Donc on peut pas vraiment qualifier ce premier entrepreneur et employeur d'Alice Recoq de start-up qui était donc la SEA, mais ça débute dans un garage. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un demi-siècle avant les Google, etc., qui ont créé Smith du garage. On a déjà une entreprise technologique qui débute dans un garage, et donc c'était quelqu'un de très inventif qui a beaucoup fait pour les premières heures de l'informatique française, et donc qui effectivement prend Alice Recoq dans son équipe, la pousse très vite. Et je trouve que cette question des rôles modèles, elle est intéressante, et des rencontres dans le parcours d'Alice Recoq, parce que il y a cette approche de rôle modèle de proximité, c'est-à-dire que souvent on va penser tout de suite à des personnes qui peuvent être très éloignées. Dans les femmes scientifiques, on a Marie Curie, mais en fait tout au long du parcours d'Alice Recoq, il y a des personnes qu'elle a rencontrées qui l'ont incité à aller plus loin. Et donc moi, je crois beaucoup à cette approche en se disant que ce n'est pas que des grandes figures, mais aussi des personnes du quotidien qui peuvent transformer les trajectoires.
Dont sa mère, en premier lieu, une personne du quotidien qui l'a incité à continuer à travailler et qui s'est même battue pour qu'il puisse avoir accès aux bonnes études d'un lycée parisien.
Tout à fait. Ensuite, une professeure de mathématiques aussi qui l'a beaucoup inspirée, quelqu'un qui l'a conseillé sur son orientation, François-Henri Raymond. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui maillent le parcours et qui vont cette cet impact sur la trajectoire.
Alors, pour venir maintenant aux faits et ce à quoi elle a participé, Alice Recoq, on peut notamment citer la miniaturisation des ordinateurs. Dans quelle mesure, justement, elle a collaboré, aidé, vu, parce qu'elle a aussi un côté visionnaire, hein, Alice Recoq, quand on vous lit. Et donc, elle a senti qu'il fallait de toute façon que ces ordinateurs soient de plus en plus petits, trouver les moyens qu'ils le soient pour qu'ils soient de plus en plus accessibles.
Tout à fait. C'est vraiment une femme qui est pionnière et visionnaire. Très tôt, elle croyait, donc dès les années 50, à l'informatique personnelle qu'on connaît tous aujourd'hui quand on a notre ordinateur qu'on range dans notre sac, notre téléphone qu'on met dans notre poche. Elle, à l'époque, elle croyait déjà à ça et donc elle était spécialisée notamment sur la question des mémoires des ordinateurs qui est l'élément clé pour avoir cette démocratisation qu'on a connue et qu'on a aujourd'hui où tout le monde peut utiliser un ordinateur, là où à l'époque c'était des immenses machines qui tenaient dans un studio entier comme celui-ci, qu'il fallait réfrigérer, qui étaient extrêmement lourdes et compliquées à installer, et du coup seulement entre les mains de quelques laboratoires de recherche. Donc il y a vraiment ce parcours-là de l'informatique qui a été possible grâce aux travaux de personnes comme Alice Recoq. Et donc ce tout premier ordinateur qu'on mentionnait, qui est le CAP 500, qui est un des premiers projets sur lesquels elle a travaillé, c'est le premier ordinateur conversationnel, et donc aujourd'hui ça nous semble basique, on va dire, de taper sur un clavier pour communiquer avec un ordinateur, et elle, c'était la première à avoir ce mode de communication avec un ordinateur, et il y avait notamment une fonctionnalité assez intéressante où l'ordinateur complétait le mot, donc des choses qu'on a aussi aujourd'hui. Donc elle était visionnaire sur cette perception du rôle de l'ordinateur et notamment de l'informatique personnelle. Elle était aussi visionnaire sur la question de l'impact des réseaux, puisque un des ordinateurs sur lesquels elle a travaillé ensuite, le Mitra 15, était notamment impliqué dans un ancêtre français d'Internet qui s'appelle le réseau Cyclades. Et donc elle pensait fortement que ces réseaux, notamment Internet, elle est impliquée.
Elle parlait d'ailleurs en 1978 de phénomène informatique. Et dans le phénomène informatique, on comprenait justement la mise en réseau. Se dire qu'un ordinateur qui pourrait communiquer avec un autre ordinateur, en fait, elle était déjà dans le dépassement du simple ordinateur pour entrevoir la force et la puissance du réseau.
C'est ça, et elle était persuadée qu'ensuite ça allait impacter la société tout entière. Donc ça, elle l'a perçu très tôt. Il y a aussi ce qu'elle a fait pour défendre la protection des données personnelles des années 70. Elle a participé à l'une des réunions de création de la CNIL, et son combat, c'était de se dire qu'il fallait un garde-fou face au pouvoir de surveillance accru des entreprises et des États grâce à l'informatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a anticipé très tôt et pour lequel elle s'est mobilisée. Et ensuite, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que de voir que des années 80, elle anticipait des usages contemporains de l'intelligence artificielle, et donc j'ai lu un article où elle parle de générer du texte, générer des images, de la reconnaissance visuelle, utiliser l'IA pour répondre à des questions.
Elle prononce même ChatGPT, je crois, non ?
Avant l'heure. Là, je crois pas, mais effectivement, c'était ChatGPT avant l'heure.
Voilà, Alice Recoq, on va maintenant tout de suite entendre.
Je pense que ce qui était peut-être le plus prospectif dans cette machine, c'est qu'elle était très conversationnelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour faire fonctionner un ordinateur, on prenait un paquet de cartes, on le mettait dans un bac à cartes et on attendait que sorte le résultat. Là, on avait, d'une manière très spectaculaire, un fonctionnement d'imagine de bureau, c'est-à-dire qu'on pouvait faire sur le CAP 500 ce que vous faites aujourd'hui sur votre calculette. 2 multiplié par 2, divisé par 10, moins 4 égale, et ça sortait le résultat. Bon, ça c'était un petit peu, je dirais, publicitaire pour montrer combien cette machine pouvait être conversationnelle.
Est-ce qu'à l'époque, Alice Recoq, en tant qu'ingénieur, vous réalisiez vraiment les enjeux que ça représentait ?
Je dirais pas vraiment. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, si vous voulez, non, je pense qu'on avait beaucoup plus une mentalité de chercheur, qu'on se passionnait pour ce qu'on faisait, qu'on essayait de faire toujours mieux, qu'on avait la chance d'évoluer dans une liberté de conception à peu près totale, hein, alors que plus tard, on avait des contraintes de compatibilité avec IBM, avec un autre, qui faisait qu'on faisait pas ce qu'on voulait. Alors que là, on avait une liberté de conception totale et on a fait des choses très intéressantes.
Voilà, une liberté de conception totale. On voit ce parcours d'Alice Recoq qui est à la fois entre l'entrepreneuriat, l'innovation et la recherche. Elle a toujours justement avancé sur ses deux jambes qui l'ont parfois menée assez loin, puisqu'elle fait des grands voyages, déjà à l'époque, notamment dans la Silicon Valley. Quels ont été les fruits justement de ces voyages qu'elle opère dans cette Silicon Valley qui est naissante, hein, tout de même ?
Elle était vraiment dans une veille permanente. Et donc, tous ces voyages qu'elle a fait donc, dans la Silicon Valley, mais il y a notamment aussi un voyage qui a été très important pour elle au Japon, au début des années 80, qui a permis de découvrir les projets des Japonais sur cette résurgence de l'intelligence artificielle et qui, du coup, ensuite a été moteur sur tous ses travaux par la suite. Donc, elle avait vraiment cette veille permanente où elle allait beaucoup dans les laboratoires de recherche. Elle-même, à certains moments de sa carrière, a aussi fait de la recherche et notamment une phase où elle est assez vite remisée dans une forme de placard à cause de fusion et de mutation au sein de son entreprise. Et c'est par ce passage, par la recherche, qu'ensuite elle remonte au créneau et qu'elle porte l'ordinateur qui est notamment la raison pour laquelle elle a eu beaucoup de succès, qui est le Mitra 15. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel elle reste en lien toute sa carrière.
Un mot peut-être sur le Mitra 15, parce que tout ça, ça nous paraît des mots un peu énigmatiques pour nous. Vu d'ici, on a compris donc le Cap 500 était cet ordinateur, cette première machine conversationnelle. Alors ça, ce sont des mots qui nous parlent. Et le Mitra 15, c'est quoi ?
Alors, le Mitra 15, c'est un ordinateur temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui est conçu pour réagir le plus vite possible entre l'apparition d'un phénomène, d'un signal, et la réponse qu'il y apporte. Et du coup, il a vraiment été utilisé pour les grands, on va dire, défis du 21e siècle, c'est-à-dire l'automatisation des télécommunications. Il a notamment contribué à la fin des demoiselles du téléphone, puisqu'il y avait encore des opérateurs qui branchaient les choses, et donc ensuite ça a été automatisé. La transformation du réseau électrique, l'automatisation aussi du contrôle aérien, pour que ça se fasse de moins en moins avec des crayons et des papiers. Il y a aussi une implication dans les grandes aventures technologique du siècle, que ce soit la conquête spatiale. Il y avait notamment des Mitra 15 dans les bancs de lancement de la fusée Ariane 1, mais aussi pour Internet. Je prenais cet exemple du réseau Cyclades, ancêtre d'Internet, qui intégrait des Mitra 15. Et enfin, dans la diffusion de l'informatique dans la société, puisqu'il y a une opération qui permettait notamment d'avoir des Mitra 15 dans les écoles, et donc de former les écoliers à l'informatique. Donc c'est vraiment quelque chose de transverse sur les utilisations de cette machine et son impact.
Alors justement, vous évoquez quand même Internet. Ça, c'est une grande histoire, parce qu'on se rend compte que finalement la France, est-ce qu'elle avait à portée de main, à portée de doigt, la possibilité d'inventer Internet avant les autres, avant les Américains ?
Alors ça, c'est toujours difficile de refaire l'histoire a posteriori, mais c'est vrai qu'on avait, donc à la suite du lancement d'ARPANET, qui était ce premier réseau américain, une volonté, une impulsion française pour avoir la même chose avec Louis Pouzin, qui est une personne avec qui j'ai notamment pu échanger pour ce livre, qui est aussi un pionnier tout à fait fascinant, qui lui s'était lancé dans voilà ce réseau français, Cyclades,
qui est un joli nom
assez,
d'ailleurs.
Exactement, métaphore assez parlante de la mise en réseau, et qui a notamment une approche très originale par rapport à ARPANET. Il a choisi une technologie qui a été ensuite reprise dans les protocoles d'Internet, mais donc que nous, on a français laissé passer pour se concentrer sur la technologie qui a notamment permis d'avoir le Minitel.
Oui, voilà, effectivement. Et ça, c'est la grande histoire du Minitel. Et comment pensez-vous qu'Alice Recoq voyait toutes ces évolutions ? On a bien compris, finalement, le côté anticipation. Elle pressentait les choses. Est-ce qu'elle était écoutée à ce moment-là ? On a vu ce qu'elle a pu apporter, mais est-ce que sa voix pouvait porter à l'intérieur de ses collaborateurs, avec ses collaborateurs et au sein des institutions et des entreprises qu'elle a représentées ?
Alors, elle avait vraiment une influence en son temps, et ça, j'ai pu le voir à travers différentes coupures de presse que j'ai pu constater. Donc, c'est sûr que c'était une personnalité qui avait une influence, qui était très reconnue par son écosystème, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça a toujours été simple dans ses entreprises. Elle a vraiment dû trouver sa place, se battre. Parfois, elle a aussi été, notamment au moment où elle est à la tête d'une équipe d'une centaine de personnes, lorsqu'elle conçoit le Mitra 15, elle a pu être mise en défaut par des personnes qui n'étaient pas très heureuses d'être dirigées par une femme. Donc, ça a été compliqué, mais elle a réussi à se créer une place et à être entendue pour les sujets qu'elle défendait.
Voilà, ils sont nombreux ces sujets qu'elle défendait. Alice Recoq, on va continuer à parler de son parcours, car c'est tout l'objet de votre ouvrage. Vous arrivez à raconter la grande histoire de l'informatique en France à travers son histoire à elle, et on découvre beaucoup de choses. On aura l'occasion justement de parler juste après du plan calcul, mais tout de suite je vous propose de vous mettre debout, avec Debout les femmes, cet hymne féministe qu'on va entendre tout de suite chanter par 39 femmes. C'était en 2018.
France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Debout les femmes dans le meilleur des mondes, et une autre femme s'est assise en studio. Juliette Debout, bonsoir.
Bonsoir.
Assise bien sûr pour nous présenter son journal.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Debout.
Alors que les entreprises de la tech s'animent depuis quelques semaines pour se conformer au tout récent Digital Market Act, la CNIL a publié un rapport il y a quelques jours autour d'un autre règlement entré lui en vigueur il y a 5 ans, le RGPD. Alors que le règlement général sur la protection des données était très largement critiqué par les entreprises depuis son entrée en vigueur, la CNIL prend le contre-pied avec ce bilan en revenant sur les bénéfices pour le tissu économique engendré par le règlement ces dernières années. Et selon les études reprises par le rapport, des bénéfices existeraient bel et bien pour nos économies. La mise en conformité des entreprises au RGPD aurait permis d'améliorer le niveau de connaissance des entreprises sur leurs données, leur aurait également permis d'atteindre un meilleur niveau en termes de sécurité informatique, leur permettant de se préserver des risques cyber souvent coûteux. Un bilan positif qui rappelle que les cadres réglementaires qui assurent une relation de confiance entre utilisateurs et entreprises sont toujours bénéfiques.
Et l'on poursuit, Juliette, avec des nouvelles de nos hôpitaux.
Et oui, si on sait que la réalité virtuelle se déploie depuis plusieurs années dans le domaine de la formation médicale, on apprend grâce au journal Le Monde que certains hôpitaux vont encore plus loin dans l'innovation. C'est le cas de l'hôpital Bichat qui travaille au développement d'un concept nouveau, la téléportation virtuelle, pour faciliter la coopération entre chirurgiens du monde entier. Alors derrière ce terme digne d'un film de science-fiction, l'idée est simple: donner la possibilité à deux chirurgiens installés dans des blocs opératoires sur deux continents différents de se voir, de se parler et de se conseiller dans leurs gestes techniques grâce à des casques de réalité mixte. Ces casques, qui permettent de voir à la fois le monde réel, mais également de voir et d'interagir avec des éléments numériques, pourraient ainsi permettre à terme à un chirurgien de conseiller et de guider dans ses gestes un autre chirurgien lors d'une opération en temps réel. Une innovation prometteuse, encore au stade d'expérimentation, mais qui prouve l'utilité des outils technologiques pour opérer la circulation des connaissances.
Et l'on termine ce journal avec une innovation dans le champ politique cette fois.
Oui, alors que l'on s'inquiète de plus en plus de l'impact des deepfakes et des opérations d'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux en amont des nombreuses élections prévues au cours de l'année 2024, un autre danger paraît moins médiatisé ces derniers temps, celui des bulles algorithmiques. Il est en effet plus à démontrer que les algorithmes de recommandation qui sous-tendent nos agora modernes peuvent mener à l'enfermement dans des bulles d'opinion. Et c'est pour remédier, au moins en partie, à ce phénomène que des chercheurs français se sont associés pour développer un algorithme de recommandation inédit du nom de Bloom, un algorithme de recommandation qui fonctionne exactement à l'inverse de ceux des réseaux sociaux. Une fois installé, l'algorithme analyse votre profil et vous propose des contenus éloignés de vos opinions ou abordant les sujets sous des angles différents. Alors si l'intention est bonne, reste à savoir combien de temps les utilisateurs accepteront d'être confrontés à des contenus opposés à leurs valeurs et à leurs convictions. Réponse à la fin de la phase test prévue à partir du mois d'avril, juste avant donc la tenue des élections européennes.
Et on aura évidemment l'occasion dans le meilleur des mondes d'aborder la question des élections européennes et des enjeux numériques, donc juste avant le mois de juin, ce sera l'occasion d'une nouvelle émission. Mais ce soir, cette émission est consacrée à Alice Recoq et cette première biographie que vous avez signée, Marion Carré, aux éditions Fayard, qui a voulu effacer Alice Recoq. Et à travers son histoire, on raconte la grande histoire, celle de l'informatique français. Et donc j'ai pu redécouvrir à la lecture de votre ouvrage de nombreuses pages concernant le plan calcul. Là, il faut remonter au général de Gaulle. Ce plan calcul, racontez-nous quelle était l'ambition à l'époque de l'État français.
Effectivement, on ne doute pas forcément que le général de Gaulle s'est même emparé du sujet de l'informatique. Et donc, ce plan calcul arrive dans les années 60, à un moment donné où on a déjà une rivalité existante avec des acteurs américains. Et en fait, la bête noire des administrations françaises pendant tout le XXe siècle, c'est IBM.
Il n'aimait pas les Américains, le général de Gaulle ?
avec IBM qui est très très bien positionné et qui est vraiment un rival assez important. Et donc le plan calcul a pour objectif de, donc il y a plusieurs choses dans le plan calcul, mais notamment de créer un champion français de l'informatique. Et donc pour ça on fusionne deux boîtes, la boîte d'Alice Recoq et une autre, et on crée la C2I, Compagnie Internationale pour l'Informatique. Donc vraiment l'ambition est dans le nom, et on fait en sorte de pousser au maximum ce champion français. Il y a aussi l'INRIA aujourd'hui, qui s'appelait l'IRIA à l'époque, qui émerge de ce plan-là. Donc c'était vraiment l'objectif d'avoir un électrochoc pour pousser au maximum l'informatique française à une époque où on commençait à prendre conscience de l'importance du sujet.
Alors on va écouter justement une archive d'époque sur ce plan calcul par Michel Debré.
Diverses sociétés françaises importantes se sont groupées ainsi que leurs filiales en une société unique, la Compagnie Internationale de l'Informatique. Et avec ces sociétés mères, leurs filiales et cette société nouvelle, l'État a passé un contrat de 5 ans. Pendant ces 5 ans, ces sociétés font un effort financier, technique, industriel. Et pendant ces 5 ans, l'État fait également un effort financier, apporte sa collaboration technique. Et au bout de ces 5 ans, comme il est normal, il y aura une révision et sans doute la collaboration continuera. Mais la base a été établie, une industrie nationale en face de ses concurrentes, de telle façon que dans ce secteur scientifique et dans ce secteur industriel capital, si possible, nous restions au premier rang.
Si possible que nous restions au premier rang. C'est dur à entendre hein, quand on l'écoute avec les oreilles de 2024. Avec le recul, comment on peut expliquer l'échec de ce plan calcul ?
Effectivement, c'est tout l'intérêt de le regarder avec les yeux d'aujourd'hui, qui est de voir qu'il y avait cette volonté initiale très forte qui ensuite n'a pas porté ses fruits. Alors, les raisons sont multiples, mais on peut notamment voir que, effectivement, au bout d'un moment, on décide de fusionner ce champion français à un autre champion français qui était Bull et qui était déjà passé en grande partie sous pavillon américain. Mmh. Et on finit par décider de fusionner les deux. Alors on se dit que quand même c'est bien, ça permet d'adosser ce champion français à une boîte américaine avec tout. Mais donc ce symbole même de la fusion avec une entité soutenue par les Américains montre qu'il y a une forme de défaite au bout d'un moment sur le fait de croire à une informatique française de premier plan au niveau international.
Oui, on sait très bien que dans les fusions, c'est toujours un peu le plus gros qui gagne et qui l'emporte sur le premier, même si les promesses sont toujours là d'arriver à respecter la culture des deux entreprises. Mais on comprend effectivement un peu ce paradoxe de vouloir défendre une souveraineté nationale en s'alliant déjà à un acteur étranger, et pas des moindres, hein, puisque c'est l'acteur américain qui, à cette époque-là, domine le marché. Quand on regarde ce plan calcul et quand on regarde notre situation actuelle, on se dit que là encore, il y a beaucoup de similitudes.
Effectivement, c'est vrai que les parallèles sont assez éclairants et c'était notamment l'objet pour moi dans ce livre de creuser cette histoire de l'informatique française pour qu'on puisse essayer au maximum d'en tirer des leçons par rapport aux enjeux qu'on rencontre toujours aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui cette volonté d'avoir des champions français toujours très présentes et existantes, notamment sur l'intelligence artificielle, et donc avec toujours ces problématiques de savoir comment est-ce qu'on peut leur permettre de s'imposer face aux géants américains. Comment est-ce qu'on peut avoir des acteurs souverains, que ce soit français ou européens, et avec les problématiques qu'on peut rencontrer, puisque pour parler d'un sujet d'actualité, on a par exemple l'acteur français Mistral de premier plan, qui a eu notamment dans ses investisseurs récemment Microsoft qui est rentré au capital. Alors c'est une toute petite part, c'est beaucoup moins que chez OpenAI, mais on voit quand même cet enjeu de symbole d'indépendance française et européenne qui rencontre un certain nombre de limites.
C'est d'autant plus fort chez Mistral qu'il y avait au préalable justement une ambition, là on peut parler notamment de l'IA Act, hein, d'assouplir les règles européennes pour pouvoir leur permettre d'être des acteurs très forts, à l'innovation très forte, pour rivaliser justement avec les Américains. Et on peut voir, une fois que cet accord a été signé, quelques mois après, ce premier contrat de partenariat. Donc c'est vrai que ça génère un peu de confusion.
Tout à fait. C'est toute la problématique et de se dire comment peut-on en fait réussir à avoir des champions français européens, c'est une première question, avec toutes les limites qu'on rencontre sur un marché européen qui peut être assez fragmenté, du coup des entreprises qui peuvent avoir plus de mal à trouver des débouchés. Mais donc les deux leviers qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est les champions Est-ce que ça peut encore fonctionner? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des champions par nous-mêmes? Et la régulation. Et donc, c'est toute cette problématique où, en fait, il y a un retard, mais qui est en fait l'héritage de toute cette histoire de retard sur le fait d'avoir des champions de l'informatique. Donc, ensuite, des géants américains, des géants qui ont capté aussi beaucoup de données, qui est un sujet clé sur l'intelligence artificielle. Et donc, la situation d'aujourd'hui est en fait l'héritage de ce que je raconte dans le livre sur l'histoire de l'informatique française.
Mais justement, à vous lire, il y a une forme de fatalisme, parce qu'on a l'impression que les questions qu'on se pose aujourd'hui pourraient être des questions nouvelles. On parle beaucoup de souveraineté technologique, notamment sur la question du cloud, mais vous évoquez l'intelligence artificielle, même sur la question de la sécurité intérieure. Est-ce qu'on doit faire affaire avec des entreprises étrangères? Oui, mais si on prend des entreprises françaises, ça sera plus cher et moins performant, donc allons à l'efficacité, allons à la simplicité. Et puis voilà, on se plonge 50, 60 ans, 70 ans en arrière, on voit que les questions étaient les mêmes, donc on a du mal à entrevoir une possibilité de véritables champions français et européens, vu tout le retard accumulé.
Alors j'ai quand même envie de garder une forme d'optimisme, même si je pense qu'il faut être très pragmatique, et c'est la raison pour laquelle j'aborde ces problématiques et que je trouve que c'est intéressant de tirer le fil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un enjeu déjà de voir est-ce qu'on veut se positionner frontalement face à des acteurs américains. On l'a eu sur ce champion de l'informatique française face à IBM, où au final ça a été très compliqué. Là on a aujourd'hui avec Mistral qu'on va mettre face à OpenAI, à d'autres géants américains, où c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a d'autres poches d'activité.
Et quelles sont-elles alors, ces poches?
Alors si on prend la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle dans sa globalité, il y a pas mal de choses à faire sur l'amont, sur comment est-ce qu'on va bâtir une intelligence artificielle de confiance, faire en sorte de contrôler les données qui sont utilisées, sur l'aval pour s'assurer d'avoir des intelligences artificielles qui dérapent pas, mais aussi sur des applications très verticales dans des secteurs spécifiques où en fait il y a encore beaucoup de choses à faire et à avancer en termes d'application. Et c'est vrai que se positionner frontalement là où les Américains et les autres sont très bons parce qu'ils ont beaucoup de financement, que nous on a beaucoup plus de mal à mobiliser en Europe, c'est compliqué, mais il reste quand même des poches et des choses à faire. Et selon moi, une intelligence artificielle à la française et même européenne à inventer, et c'est aussi dans ce sens-là que vont les dernières régulations dont on a pu parler récemment, dont l'AI Act.
Quelle était la vision justement d'Alice Recoq par rapport à cet Américain, à ces puissances étrangères, et puis globalement aussi à l'intervention de l'État, parce qu'on voit qu'elle était aussi assez fière d'arriver à mettre en place des projets en s'émancipant de l'argent et de la puissance publique. Et en même temps, on sait qu'on a quand même besoin de l'État si on veut rivaliser avec les autres nations étrangères, notamment les États-Unis, qui ne se privent pas du tout d'ailleurs d'avoir des investissements très forts mixtes entre le privé et le public. Quel était son positionnement?
Alors, vous le mentionnez, effectivement, c'est intéressant. Une des fiertés d'Alice Recoq, qui a été un peu mise sur le banc de touche au moment de l'avènement du plan calcul, c'est d'avoir, avec le Mitra 15, réussi à faire un ordinateur en dehors du plan calcul, qui a eu énormément de succès et qui a rapporté beaucoup d'argent à son employeur. Donc, elle, c'était son tour de force d'être rentrée par la fenêtre. Mais vis-à-vis du soutien de l'État, c'est effectivement quelque chose de très important. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en France, on a un bon écosystème, des startups qui sont bien accompagnées, bien épaulé, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de cohérence au global où il faut savoir si on veut avoir des champions français européens, il faut les soutenir notamment par la commande publique. Et c'est vrai que dans le parcours d'Alice Recoq et dans les différentes machines qu'elle a pu concevoir, elles ont été utilisées par des administrations et elle-même était très mobilisée, notamment sur ces enjeux de politique publique pour la protection des données. Elle s'est aussi beaucoup mobilisée, donc ça s'est vraiment fait dans les deux sens.
Voilà, vous parlez justement de la protection des données, on en entendu tout à l'heure dans le journal de Juliette Deveau le rôle de la CNIL. Vous disiez qu'elle a été à l'origine de cette discussion de la CNIL dès les années 70, milieu des années 70.
Effectivement, elle a participé à une des réunions fondatrices de la CNIL. Et ce qui est intéressant, c'est que la CNIL, elle émerge dans le contexte d'un scandale lié au projet Safari, qui consistait à informatiser les données INSEE des Français. Et donc ça avait vraiment eu une levée de boucliers à l'époque, les gens étaient fondamentalement opposés. Et c'est intéressant de l'inscrire aussi dans une histoire, c'est-à-dire qu'on est assez peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, et donc on sait l'impact que peut avoir une entreprise de fichage massive. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'émerge la CNIL pour réussir à poser des garde-fous en se disant OK, l'informatisation c'est très bien, mais il y a des limites à poser. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec l'AI Act et l'intelligence artificielle, c'est de se dire que c'est super, il y a énormément de choses à faire, mais il y a aussi des limites éthiques à poser et qui doivent venir de la société civile, des citoyens représentés aussi par leurs institutions et pas seulement des acteurs de la tech qui s'autorégulent.
Alors vous évoquez justement l'intelligence artificielle, vous avez dit que Alice Rocock déjà avait pu percevoir ce que, c'est que cette intelligence artificielle pourrait être, notamment son accessibilité, sa démocratisation au plus grand nombre. Est-ce que vous avez pu recueillir des informations pour savoir comment elle regardait la situation actuelle? Alors elle est décédée en 2021, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative depuis on va dire 2 ans, mais tout de même avant que cette IA générative arrive, il y avait déjà beaucoup d'avancées par rapport à l'IA. Est-ce qu'on sait comment elle regardait ces évolutions-là?
C'est intéressant de mentionner toutes ces avancées par rapport à l'IA, puisque c'est vrai que souvent, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de tout neuf, mais qui est en fait un vrai recul historique. Ça fait longtemps que l'IA existe, et moi ce que j'aime beaucoup dans la période que j'étudie à travers Alice Rocock, c'est qu'on voit le boom de l'IA dans les années 80, où sur la médiatisation de cette technologie, on a des choses très semblables à ce qui se fait aujourd'hui sur les discours, les craintes, les espoirs aussi que ça suscite. Donc il y a vraiment cette proximité, je trouve, dans la circulation de cette technologie. Donc elle, à l'époque, elle était très heureuse d'avoir aussi participé à la démocratisation de cette technologie. Et ce qu'elle anticipait, c'est qu'on finisse par tous faire de l'intelligence artificielle sans le savoir. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et d'ailleurs, avant cette nouvelle vague IA générative, ce qui a changé, c'est qu'on utilisait avant tous un peu l'IA sans le savoir, dans nos boîtes mail, dans les applications de streaming, sur la recommandation. À plein d'endroits, on n'était pas forcément conscients. Mais depuis l'IA générative, on sait qu'on mobilise des IA pour faire des choses pour nous. Donc ça change la perception. Mais en tout cas, elle était fière d'avoir participé à ce nouvel élan technologique dans les années 80 et qui a poursuivi par la suite.
Vous avez raison de rappeler justement ce qu'on appelle dans le milieu les hivers et les étés d'une technologie dont on parle fréquemment, puis après on l'oublie. Peut-être que dans 15 ans, on reparlera du métavers qui aura emprunté un autre nom. On se dira, voilà, en 2024, il a failli naître et puis il est mort et puis il va évidemment renaître. En parlant donc de mort, elle est partie en 2021. Vous n'avez pas eu l'occasion de la rencontrer?
Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontrée. Je l'ai découverte du coup après qu'elle ait disparu, mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu la découvrir à travers le regard de ceux qui l'ont connue. Et donc ça m'a donné autant de facettes sur sa personnalité à travers toutes ces expériences, ces souvenirs et ces témoignages qui m'ont été partagés.
Ça s'est quand même joué à pas grand-chose, puisque vous avez initié ce travail il y a 2 ans. En 2022, vous avez pu rencontrer ces petits-enfants. Donc il y a eu, je dirais pas, je vais pas faire d'interprétation métaphysique, mais on a quand même l'impression qu'il y a une sorte de presque de synchronicité dans le passage de relais. Au moment où vous vous intéressez à elle, c'est le moment où elle disparaît.
Effectivement, une forme d'alignement des planètes.
Et puisqu'on parle d'alignement des planètes, de synchronicité, on arrive tout droit vers la science-fiction. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
Marcus qui va nous parler des figures féminines au sein de la SF.
Et oui, parce que quand on entend parler de la SF du XXe siècle, il est souvent question d'hommes, comme Frank Herbert qui a écrit Dune, Isaac Asimov, Philip K. Dick, William Gibson, Arthur C. Clarke. Et c'est de là que vient une idée reçue. La SF aurait été construite par des hommes. Soyons clairs, c'est faux. Des écrivaines ont contribué à la bâtir. La figure de proue, c'est Ursula Le Guin, mais elle est loin d'être la seule. Au XXe siècle, nombre de femmes ont écrit de la grande science-fiction.
Et de quelle figure classique de la SF faudrait-il parler, Marcus?
Eh bien, on doit à l'écrivaine afro-américaine Octavia Butler des livres qui ont marqué profondément la SF. Elle a abordé des sujets politiques forts comme le féminisme, le racisme, les rapports de domination. En tête de liste, La parabole du semeur, un roman post-apocalyptique de 1993 qui se déroule en 2024. Elle décrit une société au bord de l'effondrement à cause du dérèglement climatique, de la misère sociale, des extrêmes politiques et du capitalisme effréné. Tiens, eh bien, dans ce marasme, son héroïne entend créer une utopie fondée sur l'entraide et la solidarité. Ce sont des thèmes récurrents aujourd'hui. La parabole du semeur était visionnaire. Alors, heureusement, depuis quelques années, l'intérêt médiatique s'établit envers Octavia Butler. Une série télé a même été produite en adaptant son roman « Lien de sang » où une femme voyage dans le passé, dans une plantation où ses ancêtres étaient esclaves.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? C'est un rêve. Le jour, l'année, on est en quelle année?
En 1815.
J'ai disparu combien de temps?
Moins d'une minute, même pas quelques secondes.
J'ai eu l'impression d'être là-bas une heure.
En France, l'œuvre d'Octavia Butler est enfin éditée en entier. Les éditions Au Diable Vauvert ont récemment terminé la publication de sa trilogie Xénogénésis. C'est un futur lointain où l'humanité a ravagé sa propre planète, mais certains rescapés ont été sauvés entre guillemets, par des extraterrestres. Cette saga est une lecture essentielle. Octavia Butler est une autrice de science-fiction qui bouscule moralement et politiquement.
Des œuvres avant-gardistes, donc, une caractéristique des écrivaines de science-fiction du XXe siècle.
Eh bien, il faut croire, j'en veux pour preuve, le récent pari des éditions Argile, publié Eleanor Arnason. Ce nom ne vous parle peut-être pas, même si vous êtes très fan de SF. On lui doit pourtant un livre important publié aux États-Unis en 1991 et 30 ans plus tard, édité en France sous le titre « Les Nomades du Fer ». Alors le récit, c'est celui d'une anthropologue envoyée vers une autre planète pour y observer la population sans interférer. Avec ce récit d'exploration, Eleanor Arnason fait dans la science-fiction avant-gardiste. C'est une œuvre féministe et écologique parfaitement maîtrisée. Alors oui, vous le voyez, dans la littérature du XXe siècle, il y a beaucoup de joyaux écrit par des femmes, à tel point que c'est une absurdité de ne pas les citer davantage quand on évoque les grands classiques de la SF.
Et on peut compter sur vous, Marcus, pour briser cette absurdité et nous faire part dans cette chronique des grandes figures de la science-fiction que vous aimez tant. Marion Carré, vous qui travaillez dans le domaine culturel, on n'est donc pas loin. Quel rôle pourrait jouer justement la fiction, les œuvres de fiction, aussi dans la représentation des rôles modèles ?
On touche du doigt un sujet important puisqu'effectivement, une des causes de cette problématique systémique de la place des femmes dans l'informatique, c'est les représentations. C'est-à-dire qu'on baigne dans un univers où, dès le plus jeune âge, on donne le sentiment aux petites filles que c'est pas pour elles. Le monde de la tech, le monde de l'informatique, c'est quelque chose d'homme et donc c'est pas pour elles. Ça passe par les Barbie. Il y avait eu ce scandale de la Barbie ingénieure qui ne savait pas utiliser un ordinateur. Dans les années 90, on avait une Barbie parlante qui disait que les maths, c'est dur. Donc on a tout cet historique-là et effectivement, les imaginaires, ils sont pour beaucoup. Donc la littérature peut avoir un impact fort sur cette problématique de perception des femmes dans l'informatique, dans notre société.
Justement, vous travaillez aussi sur les imaginaires avec votre application Askmona, avec votre start-up, puisque vous rendez la culture plus accessible, vous faites aussi un peu de storytelling, vous amenez cette culture un peu partout. Il y aurait peut-être quelque chose à faire autour d'Alice Rocock. Vous en avez fait donc une première biographie, mais on pourrait imaginer une projection, un prolongement justement de vos travaux.
Bah oui, l'objectif, c'est de pouvoir avoir le plus de formats possible pour faire découvrir Alice Rocock au plus grand nombre. Donc, on verra bien. Mais effectivement, je pense qu'il y a ce personnage qui est très intéressant et qui nous permet de changer les représentations. Et donc, à mon avis, c'est à diffuser auprès du plus grand nombre, et notamment dans les écoles et auprès des jeunes générations pour donner envie d'y croire et donner envie aux jeunes filles de se lancer dans ce milieu qui n'est pas un milieu d'hommes, et Alice Rocock en est la preuve.
Vous avez justement témoigné d'une petite note d'espoir tout à l'heure concernant la possibilité qu'un champion français ou européen puisse naître et résister un peu à cette capacité de prédation des entreprises américaines. Est-ce que vous avez la même note d'espoir lorsqu'on vous voyait l'évolution justement des femmes dans le secteur de la tech qui est le vôtre ? Vous le disiez, c'est encore une minorité, on l'a compris. On a vu quand même certains chiffres très actuels étrangers qui annoncent quand même un mouvement, une sorte de recrudescence des femmes dans l'univers de la tech aux États-Unis et en Europe. Néanmoins, on voit que ce sexisme demeure, persiste. Comment vous voyez-vous de l'intérieur en tant qu'entrepreneuse avec, je ne sais pas, vos collaborateurs, vos collaboratrices ou les gens que vous pouvez côtoyer dans cet écosystème ?
Alors, effectivement, les choses bougent, ce qui est encourageant, mais elles bougent trop lentement. Et ce qui est de l'ordre d'un phénomène qu'on pourrait penser révolu parce que c'était l'époque d'Alice Rocock est en fait toujours très actuel. On pense à tort que voilà c'était comme ça, mais oui, mais parce que c'était le XXe siècle et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en fait, moi, ce que j'ai étudié à travers son parcours, c'est qu'on a tout au long du XXe siècle, une forme de recul de la place des femmes dans la tech, puisque donc au début, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sous-côté.
C'était un secteur pas stratégique, elle y allait.
Voilà, très
ça devient impuissant, les hommes prennent leur place.
Exactement. Et en fait, moi, ma crainte, c'est qu'on ait en ce moment la même chose qui se passe sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on a une hausse des talents qui vont dans l'intelligence artificielle. Il y a un boom des personnes qui se mettent là-dessus, mais la place des femmes dans ce secteur est très faible et elle croît lentement. Alors qu'on est sur une technologie qui a un impact systémique puisqu'elle est aujourd'hui glissée partout et amenée à se répandre de plus en plus. Donc certes, ça bouge, mais ça bouge trop peu rapidement. C'est beaucoup trop lent et donc on voit que ce décrochage, il est beaucoup plus important dans la tech que dans d'autres secteurs de l'économie et c'est important que les choses aillent plus vite.
Mais surtout que sur l'intelligence artificielle, on voit que ça peut faire naître aussi quantité de billets puisque on sait très bien que c'est à la fois la place des femmes et aussi la place des hommes, ceux qui fabriquent ces programmes-là. Ce sont les architectes finalement d'un monde qui aujourd'hui nous gouverne et c'est pour ça qu'il est primordial d'arriver aussi à la base de la programmation. Et c'est en cela d'ailleurs où Alice Recoq avait les mains dans la machine.
Tout à fait, on a déjà un historique qui montre que dans les secteurs où il y a une surreprésentation d'hommes par rapport aux femmes, on a ensuite des technologies qui sont pas adaptées pour elles. Il y a cet exemple que je trouve très marquant qui est celui des femmes qui ont plus d'accidents de la route parce qu'en fait pour les crash tests, on utilise des mannequins qui ont la corpulence d'hommes. Ce qui fait que du coup ensuite les systèmes de sécurisation sont moins adaptés pour elles. Sur les applications, c'est pareil, on a mis longtemps à avoir des applications de suivi menstruel parce que dans les têtes d'équipes de développeurs principalement des hommes, c'était pas du tout une priorité. Et sur l'IA, aujourd'hui, on voit des impacts très importants sur les biais. Il y a un certain nombre de biais. Si vous demandez à Midjourney ou n'importe quelle autre intelligence artificielle de génération d'images, un ingénieur, un CEO, et ben vous allez avoir principalement des hommes. Donc, on récupère ces biais. Et ensuite, sur des choses, par exemple, liées à l'emploi, on va avoir une discrimination plus importante des femmes. Elles ont, par exemple, 8% de chances de moins de trouver un emploi quand on a des algorithmes d'IA utilisés dans cette perspective. Et donc, c'est un problème parce que si on n'a pas de femmes dans les équipes pour détecter ça au plus tôt, on a tout de suite des impacts massifs sur la société.
Mais grâce à vous, peut-être que lorsqu'on tapera femme ingénieure française dans les IA génératives, il y aura un visage lointain d'Alice Recoq qui pourra inspirer ses représentations. Grâce à vous aussi, cette page Wikipédia, je pense maintenant, est préservée pour l'histoire, puisque avec votre ouvrage, vous participez à ces sources secondaires. Alice Recoq qui a tant travaillé justement pour la mémoire des ordinateurs. Vous avez travaillé pour préserver sa mémoire à elle. Merci beaucoup Marion Carré d'avoir été notre invitée. Et donc je rappelle cet ouvrage qui a voulu effacer Alice Recoq à retrouver dans toutes les librairies. C'est aux éditions Fayard. Merci à la préparation de cette émission, Julie Deveau, accompagnée par le Dean Storelli à la réalisation ce soir, Perret Legras. Au son, Marie-Claire Omabadi. À la vidéo, Félix Delacour. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Meilleur des mondes.